Épître aux Romains, chapitre 13.
Lecture de la parole. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est pour cela que vous payez aussi les tributs, car ils sont ministres de Dieu, s'employant constamment à cela même. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour, donc, est la somme de la loi. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme de jour, non point en orgie ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises.
Lecture de l'étude. Après l'exhortation à ne pas se venger soi-même, mais à surmonter le mal par le bien, l'apôtre, dans ce chapitre, passe à un devoir d'ordre plus général qui incombe à tout homme, mais d'une manière particulière aux chrétiens. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu, verset premier. Toute âme, remarquant l'expression, c'est plus général que tout chrétien, ou chacun d'entre vous. Et c'est bien écrit ainsi à dessein. Voir chapitre 2, verset 9.
Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec.
La maison entière du croyant, enfant, domestique, tout y est compris. Le chrétien n'est certes pas de ce monde, mais dans le monde, comme tous les hommes, et ainsi il est tenu d'être soumis aux autorités, et cela pour des motifs qui sont de la plus haute importance. D'abord, l'autorité est ordonnée de Dieu, puis le magistrat est serviteur de Dieu, et finalement, ils sont ministres de Dieu, versets 4 à 6. On trouverait difficilement des motifs plus sérieux quant à nos devoirs vis-à-vis des autorités. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, exhorte aussi les croyants de la circoncision à être soumis, pour l'amour du Seigneur, à tout ordre humain, chapitre 2, versets 13 et 14.
Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien.
Sans doute, on pourrait ici élever sa voix, comme on le fait si volontiers, et objecter à ce simple commandement de Dieu. Oui, mais si l'autorité elle-même ne reconnaît pas sa dépendance de Dieu, si elle gouverne selon son bon plaisir et établit des ordres injustes ou pénibles, etc., que faire alors? Dois-je me soumettre quand même à elle sans condition? Il va sans dire que la parole bien connue prononcée par les apôtres devant le Sanhédrin, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », conserve toujours sa valeur. Si une autorité exige de nous une chose qui est en opposition avec la volonté de Dieu clairement exprimée, et si l'accomplissement d'un tel ordre pèse sur notre conscience, nous devons avant tout tenir compte de la volonté de Dieu, mais dans ce cas seulement. En tout autre cas, j'ai à être soumis simplement, sans m'occuper du caractère politique de l'autorité, qu'elle soit monarchique, républicaine ou d'un autre caractère, qu'elle remplisse ses devoirs ou non, car il n'y a pas d'autorité qui ne soit de Dieu. Combien cela rend simple le chemin du croyant. Au temps où notre épître fut écrite, il n'était certes pas facile d'obéir à ce commandement, car les autorités étaient entièrement païennes et idolâtres. Elles considéraient donc comme des ennemis naturels les croyants qui avaient tourné le dos à la religion de l'État et refusaient catégoriquement d'offrir de l'encens aux dieux. Elles les opprimaient même et les persécutaient. Malgré cela, il restait vrai que les magistrats sont ordonnés de Dieu pour punir le mal, pour exiger et récompenser le bien, verset 3. Le magistrat était et est encore aujourd'hui serviteur de Dieu. L'apôtre déclare cela expressément deux fois dans ce quatrième verset. Il est serviteur de Dieu pour ton bien, il ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes, verset 2. En d'autres termes, toute autorité est de Dieu. Pour cette raison, le croyant doit lui être soumis, car il résisterait à l'ordonnance de Dieu s'il ne l'était pas. Il est possible que cette soumission cause aux chrétiens des désagréments de diverses sortes, et qu'il en éprouve même peut-être des pertes sensibles et des souffrances. Toutefois, cela ne doit en rien changer sa manière d'agir. D'ailleurs, a-t-il autre chose à attendre dans ce monde d'injustice? Il y est étranger et pèlerin. Sa bourgeoisie est dans les cieux. Amené par la foi dans la plus étroite relation avec Dieu, il considère sa place et son héritage en haut. Il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Pendant sa course vers la patrie céleste, il n'est pas appelé à rechercher son droit dans ce monde, encore moins à avoir une influence active sur son organisation sociale ou politique, et combien moins encore à occuper une place d'autorité dans ce monde. Il règnera un jour avec Christ, quand le temps sera venu, mais sa part actuelle est de souffrir, et pour autant que cela dépend de lui, il doit vivre en paix avec tous les hommes, rechercher leur bien, et, en faisant le bien, fermer la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. 1 Pierre 2, verset 15.
Car c'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens.
Quand nous avons compris cela, notre position et notre attitude vis-à-vis de l'autorité deviennent très simples. En voyant Dieu en elle, les difficultés disparaissent et la plupart des questions se résolvent d'elles-mêmes. Nous reconnaissons aussi la nécessité de lui être soumis, non seulement à cause de la colère qui nous atteindrait en cas d'insoumission, mais aussi à cause de la conscience, verset 5. Pour ce même motif, il peut arriver que nous ne puissions pas obéir, comme cela a déjà été dit, à certains ordres qui sont en contradiction avec la volonté positive de Dieu et notre caractère de chrétien. La question de la manière dont a été établie l'autorité qui gouverne et comment elle exerce son pouvoir n'est pas notre affaire. Un chrétien, dans quelque pays qu'il vive et dans quelque position terrestre qu'il se trouve, doit être soumis à l'autorité sous laquelle il est placé et qui gouverne. Si, par suite d'une révolution, une nouvelle autorité est établie, il doit également lui être soumis sans murmurer, qu'elle lui plaise ou non. Il n'a pas non plus à examiner si les ordonnances et les lois promulguées par l'autorité sont justes ou non, si elles lui sont avantageuses ou nuisibles. Son affaire, c'est de prier pour l'autorité, demandant à Dieu qu'il la dirige et lui accorde l'intelligence et la sagesse de gouverner pour le bien du pays et du peuple. Il doit réaliser que ses intérêts ne sont pas liés à cette terre, mais au ciel. Nous rappelons ici l'exhortation si importante et si actuelle de l'apôtre en 1 Timothée 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Versets 1 et 2. Au lieu de médire des autorités, de nous passionner au sujet de leurs actes et de prononcer même sur elles des jugements outrageux, voir Tite 3 versets 1 et 2,
rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissants, d'être prêts à toute bonne œuvre, de n'injurier personne, de n'être pas querelleurs, mais modérés, montrant toute douceur envers tous les hommes.
Notre privilège et notre devoir est d'intercéder pour elles, faisant monter à Dieu pour elles des intercessions et des actions de grâce. Paul exhorte à le faire avant toute chose. Les croyants n'auront-ils pas plus de succès en agissant de cette manière qu'en faisant par eux-mêmes les efforts d'une intervention directe, si bien intentionnée soit-elle? Jamais la faute d'une autorité, d'un des ministres de Dieu, ne donne le droit à un chrétien de ne pas s'acquitter fidèlement de ses obligations. Si un magistrat, dans sa charge de serviteur de Dieu, commet une faute, il a affaire avec Dieu. Le chrétien est tenu de faire le bien en toutes circonstances, de rendre aussi à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur, verset 7. C'est un chapitre plein d'instructions. Nous les apprendrions facilement et nous nous éviterions bien des plaintes et des soupirs si nous nous souvenions sans cesse que nous ne sommes ici-bas que des étrangers et des pèlerins et qu'aussi toutes nos possessions terrestres ne nous appartiennent pas en propre, mais que nous n'en sommes que les administrateurs. Il est certain que si nous ne recherchons pas les choses élevées et si nous nous associons aux humbles, nous donnerons volontiers et de bon cœur à tous ce qui leur revient ou ce qu'ils attendent de nous. Chapitre 12, verset 16.
Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles, ne soyez pas sages à vos propres yeux.
D'autant plus que nous verrons Dieu au-dessus d'eux, désirant le servir dans toutes ces choses extérieures. Au verset 8, l'apôtre fait un pas de plus en disant: « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Il est probable que, par cette exhortation, l'apôtre pense en premier lieu aux obligations dont il vient d'être question, mais nous pouvons y voir aussi certainement une mise en garde contre l'habitude coupable de faire des dettes, comme cela arrive malheureusement souvent même parmi les chrétiens. Il est humiliant pour un croyant, pour quelque motif que ce soit, de s'endetter, et s'il contracte des dettes, ne devrait-il pas mettre toute son énergie à s'en défaire dans la mesure de ses forces et aussi rapidement que possible? Une seule dette fait exception à cette règle générale, c'est celle de l'amour. Cette dette-là est justifiée et n'apporte à personne du déshonneur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, et il n'est pas possible de jamais l'éteindre. Dieu lui-même, par son amour, a fait de nous ses débiteurs permanents. En même temps, l'amour est l'accomplissement de la loi. Tous les commandements qui expriment les devoirs de l'homme vis-à-vis de ses semblables se trouvent résumés en un seul « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » verset 9. Ce commandement existait depuis les temps anciens, mais personne n'a pu l'observer. La grâce seule qui nous a révélé en Christ toute la plénitude de l'amour peut transformer le cœur et nous rendre capables de ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Et si nous le réalisons, la juste exigence de la loi est accomplie en nous. voir chapitre 8, versets 3 et 4.
Ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit.
L'amour ne fait point de mal au prochain. En le faisant, il agirait contre sa nature. Ainsi, l'amour est la somme de la loi, ou, comme l'apôtre le dit aux Galates, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Galates 5, verset 14. Or, l'apôtre donne ensuite un nouveau motif pour le chrétien d'être fidèle et vigilant. Et encore ceci, connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est fort avancée, et le jour s'est approché, versets 11 et 12. Aussi longtemps que le soleil de justice ne s'est pas levé, la nuit de ce monde dure encore. Les hommes peuvent, par leurs affaires et la recherche des plaisirs, chercher à oublier ce fait, et par moments ils y réussissent peut-être. Mais pour quiconque a de l'intelligence spirituelle et connaît Christ, c'est la nuit, la sombre nuit. Les ténèbres deviennent toujours plus profondes à mesure que la nuit avance. Toutefois, dans le cœur du croyant, il y a la clarté. Il est réveillé de son sommeil, et l'étoile du matin est déjà levée dans son cœur. La nuit est fort avancée, et alors que le monde, malgré les avertissements, continue à dormir, le chrétien voit avec allégresse le jour poindre. Son Seigneur ne tarde pas à venir, si même quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Chaque jour l'amène plus près du but, et ainsi il est comme un esclave qui attend son maître avec les reins sains et la lampe allumée. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, lisons-nous en 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Que peut-on trouver d'autre chez de telles personnes que les œuvres infructueuses des ténèbres, des choses honteuses qu'on ne peut même pas nommer, versets 12 et 13, Éphésiens 5, versets 11 et 12.
Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Car les choses qu'ils font en secret, ils les honte eux-mêmes de les dire.
Par contre, le chrétien marche honnêtement comme de jour. Les œuvres des ténèbres ne conviennent pas à un être qui est délivré de la puissance du prince des ténèbres et qui est appelé désormais à marcher comme un enfant de lumière. Il lui suffit d'avoir accompli dans le temps déjà écoulé la volonté des nations et d'avoir vécu pour les convoitises des hommes. Il aime à suivre l'exhortation de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Cela ne va sans doute pas sans lutte, car nous sommes sous le règne de Satan, du prince des ténèbres, et les puissances de méchanceté s'opposent à nous. Mais si la lumière dans laquelle nous marchons fait partie de notre armure, et si la puissance de la lumière, de la vérité et de la piété, qui appartiennent à ce jour-là, habite dans notre cœur, nous déjouerons les assauts et les ruses de Satan, nous ne leur laisserons aucun accès dans nos âmes, ni ne leur permettrons d'exercer leur puissance sur nous. En suivant l'exhortation de revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire en manifestant dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actes extérieurs, le caractère et la marche de notre bien-aimé Sauveur, la vraie lumière du jour, non seulement nous ne prendrons pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises, verset 14, nous ne rechercherons pas les choses dans lesquelles ses convoitises trouvent des aliments, mais nous marcherons comme lui a marché. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'heure est venue de nous réveiller de notre sommeil. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Éphésiens 5, verset 14.